La guerre des motards a fait une autre victime, la troisième cette semaine au Québec.
Une série de raids pour arrêter des motards et des sympathisants qui auraient comploté pour assassiner le chef guerrier des Hells Angels, Maurice « Mom » Boucher, en décembre 1994 à Montréal. En fin d'après-midi, les policiers ont investi le bunker des Rock Machines dans le quartier Centre-Sud.
Au total, cinq motards et sympathisants ont été arrêtés à Montréal relativement au complot de meurtre, dont le chef du groupe de choc des Hells Angels. Maurice « Mom » Boucher avait été la cible à l'époque.
She said, no, let me go, let me go.
He was a wicked, wicked person.
How he could be that cruel.
She was dead, dead.
Suspect X. Avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella.
Radio X.
Bon lundi soir et bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X, officiellement un nouveau rendez-vous que nous avons installé avec vous lundi dernier, Suspect X. Cette émission qui parle de passion, de true crime, de crimes d'ici et d'ailleurs. Et ce soir, on approche un 30e anniversaire difficile pour le Québec, mais c'est tellement de pertinence et de circonstances d'en parler actuellement. Je faisais ma recherche avant l'émission et effectivement, le 9 août 1995 a frappé l'imaginaire de tout le monde au Québec. Je me suis amusée aujourd'hui à poser les questions à mes collègues de travail. Vous étiez où à l'époque de la guerre des motards au Québec, dans la guerre du crime organisé? Et je suis bien entourée autour de la table parce que j'ai Christian Page qui, lui, était là à l'époque, de même que notre criminologue dans l'émission Suspect X, Daniel Carosella. Moi, je vous le cacherai pas, les gars, je suis un modèle de 1997. Je suis arrivée en plein milieu de ce conflit-là qui a marqué autant la région de Montréal où vous êtes, vous, en direct ce soir, que moi, de mon côté, sur la rive sud. J'ai appris aujourd'hui que le bunker des Hells Angels était à Saint-Nicolas, juste à côté de chez nous.
Oui,
Oui, absolument.
Puis tu sais que, Camille, quand on parle de la guerre des motards, les gens font référence justement à cette guerre des motards qui opposait les Rock Machines avec les Hells Angels. Mais en fait, au Québec, c'était la deuxième guerre des motards auquel on était confronté.
Oui.
Et ça, les gens ont oublié que dans les années 60, il y en avait eu aussi une guerre des motards. Et ça, c'est évidemment comme à cause de l'actualité un peu plus récente, hein, les années 90, c'est moins éloigné que les années 60.
Voilà.
Les gens, hein, puis bon, évidemment, les gens des années 60, c'est devenu des vieux croutons, là, comme moi. Mais...
oh ben non, deux petites jeunesses.
On s'en rappelle, moi-même, de toute façon, même quand je te parle, et aujourd'hui c'est un peu ça notre thématique, hein, la guerre des motards, mais je vais parler de cette première guerre des motards. Et je l'ai en fait un peu, j'en avais entendu parler parce que bon, une de mes idoles de la chanson, Johnny Hallyday, avait été visée par cette guerre des motards. On va y revenir. Mais en dehors de cet épisode qui visait Johnny Hallyday, je ne connaissais strictement rien de cette guerre des motards. Je l'ai découverte au moment où je faisais la recherche pour mon encyclopédie du crime, là, qui était publiée en début d'année, là, Ennemi public numéro 1. J'ai consacré 3 ou 4 pages à cette histoire de guerre des motards. Et c'est là que je me suis replongé dans ces événements des années 60 et dans lequel, effectivement, Johnny Hallyday a tenu un petit rôle, un petit épisode. Mais en même temps, j'ai découvert l'importance également de cette guerre des motards qu'on a un peu oubliée aujourd'hui parce que, bon, les gens de l'époque, soit ils sont très vieux, soit ils sont décédés, donc on a de moins en moins de témoins de cette époque. Mais c'est intéressant de revenir sur cette guerre des motards parce qu'elle place... Elle va placer le Québec, en fait, ça devient la plaque tournante du trafic des narcotiques à Montréal. Parce que les gens ont tendance à oublier que Montréal n'est pas devenue la métropole qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. Cette grande métropole que l'on connaît de Montréal, c'est surtout après l'exposition de 1967, l'exposition internationale de 67. Donc, avant cette mesure-là, hein, qui a mis littéralement Montréal sur la map, Montréal n'était pas, c'était une grande ville du Canada, une grande ville de l'Amérique du Nord, mais ce n'était pas encore devenu cette grande métropole que l'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est le maire Drapeau qui a mis Montréal sur la map. Et avec ça, bien évidemment, tout ce qu'elle s'entraîne. Et quelques années plus tôt, hein, pour se remettre un peu dans le contexte, pour les gens comprennent pourquoi Montréal va devenir une plaque importante, il faut savoir que depuis les années 40, déjà, le crime organisé s'était mis en place à Montréal. Mais c'était surtout des petites bandes. Hein. C'était pas le grand crime organisé comme on le voyait du côté de New York. Et éventuellement, Montréal, et là, ça peut paraître étrange, là, mais si Montréal est devenu une plaque tournante dans le trafic des narcotiques est devenue d'un intérêt pour le monde interlope. Puis on aura éventuellement un épisode où on parlera de l'évolution du monde interlope au Québec. Mais c'est surtout à cause du port de Montréal. Hein, oui, si tu contrôles le port, tu contrôles le trafic. Et à Montréal, crois-le ou non, j'étais étonné d'apprendre ça. À Montréal, les agents de la douane passaient pour vérifier les contenus de ce qui était débarqué dans le port seulement après une décharge des membres du port de Montréal, des agents du port de Montréal. Donc, si tu réussissais à soudoyer un agent du port, il débarquait les marchandises, hein, on déchargeait les navires, il suffisait simplement d'omettre un conteneur sur la feuille de décharge, hein, sur les bons d'arrivée, et éventuellement, les agents de la douane ne pouvaient pas vérifier finalement un conteneur qui n'apparaissait pas sur les documents, hein, sur les notices. Donc, tant et si bien que quand la mafia a commencé à contrôler les agents du port de Montréal, Montréal est devenu, à partir surtout là, des années 50, est devenu une plaque assez importante dans le trafic des narcotiques. Et là, on arrive à notre fameuse guerre des motards. On est dans les années 60. À ce moment-là, les gangs de rue n'existent pas encore. Hein. La façon dont le crime est organisé à Montréal, on parle principalement des stupéfiants, c'est parce que le jeu, la prostitution, le proxénétisme, tout ça, c'est contrôlé par le monde interlope.
Mais donc, la mafia est organisée. OK.
Voilà. Et à ce moment-là, arrivent des nouveaux joueurs. Hein. C'est les pouilleux des années 60, hein, comme on les décrit. Hein. C'est des motards. Hein. Ils apparaissent vraiment dans les années 60. Il n'y a pas vraiment de groupe de motards organisés criminels avant les années 60. Et lorsque ces groupes arrivent au Québec, ben, ils doivent faire leur place. Et ils s'entendent assez bien. On est assez chummy avec le monde interlope. Alors que le monde interlope s'occupe, comme je l'ai mentionné, proxénétisme, jeu et tout le reste. Ils s'occupent également du trafic de la drogue, mais ils ont besoin de revendeurs sur le terrain. Et c'est là que va se produire ce mariage avec les groupes de motards criminalisés. Okay. Et quand je dis groupe de motards, dans les années 60, il n'y en a vraiment qu'un seul qui fait un peu sa loi, c'est les Devil's Disciples. Et ces gens-là vont éventuellement s'installer à Montréal. Puis pour les gens qui connaissent la métropole, ils ont un peu leur quartier général dans le secteur de ce qu'on appelle le quartier Saint-Louis à Montréal, rue Saint-Denis. Un peu plus bas, c'est plutôt le marché notamment du jeu, l'alcool et également la prostitution, qui est plutôt réservé à la mafia. Donc, quelques rues plus au nord, là, c'est vraiment le milieu des Devil's Disciples. Et eux, avec des ententes, avec le monde interlope, vont s'occuper de la revendre des narcotiques sur le terrain. Ils font aussi un peu dans le prêt usuraire, mais ça reste assez mineur. Leur principale activité, c'est la revente des narcotiques. Il faut quand même mentionner ici que les Devil's Disciples, malgré qu'ils aient un nom anglais, et même s'il est vrai qu'ils ont sur leur blouson, sur les écussons du blouson, ils ont des croix gammées, ce n'est pas un groupe qu'on pourrait qualifier de néo-nazi. Ouais. C'est un groupe, mais même le nom anglais n'est pas très représentatif. C'est vraiment un groupe 100% québécois, des gens qui viennent de tous azimuts au Québec, qui viennent de la petite criminalité, qui se sont réunis en ce groupe de motards. Donc, Devil's Disciple, malgré un nom anglais, reste un groupe francophone et c'est pas un groupe de néo-nazis, comme je l'ai souvent entendu, parce qu'ils avaient sur leur blouson des croix gammées. Mais il faut quand même se dire que l'idée d'utiliser Devil's Disciple, puis c'est assez amusant parce que ça rejoint un peu mon champ d'intérêt, qui est les crimes occultes.
Ouais.
Dans les années 60, tu veux choquer l'opinion publique, tu utilises le mot Devil. Hein? Quand Anton LaVey, puis on reviendra éventuellement dans une autre émission là-dessus, mais quand Anton LaVey crée l'Église de Satan à San Francisco en 1966, si on connaît bien l'Église de Satan, il n'y a pas de diable. Hein? Dans l'Église de Satan, d'Anton LaVey, on est davantage dans une organisation qui est hédoniste. Hein? C'est, il n'y a pas de diable, c'est nous autres qui sommes pervertis et arrêtons de refouler nos envies sous des morales religieuses. T'sais? Si tu as envie de baiser avec 5-6 femmes ou 5-6 hommes, ben vas-y. Qu'est-ce qui t'en empêche? La morale? La morale de qui? La morale de l'Église? Mais non, on est des animaux. C'est un peu ça la vision un peu de l'Église de Satan. Mais pourquoi utiliser Satan s'il n'y a pas de déité au sein de l'Église? Bon, c'est parce qu'Anton LaVey avait compris qu'en utilisant Satan dans une Amérique puritaine et chrétienne, c'était sûr que c'était pour choquer. Et c'est un peu la même chose ici avec les Devil's Disciples. Ce ne sont pas des adorateurs du diable, ce ne sont pas des disciples de Satan non plus, mais ils utilisent ce nom-là parce que, bien sûr, ça choque une certaine moralité. Puis on est encore dans les années 60 au Québec, puis le crucifix puis le curé ne sont jamais très loin. Fait que dès que tu utilises Devil's Disciples, c'est le mal. Et donc, mais leur exclusivité ne va pas durer très longtemps. Hein. Dès que ce milieu-là s'ouvre, hein, c'est un peu comme le type qui s'ouvre une station-service sur un coin d'une station rue.
Il y en a trois
autres
qui s'ouvrent
les autres stations. Oui, c'est ça. Donc, dans le cas des Devil's Disciples, ça s'est fait assez vite. Hein. Après quelques mois d'activité, ils voient débarquer un nouveau groupe qui s'est formé, un groupe de motards également, avec d'autres philosophies, d'autres visions, qui veulent aussi s'emparer du milieu de l'échange des narcotiques, de la vente des narcotiques à Montréal. Ils ont également leurs entrées dans le milieu mafieux et il y a comme une espèce d'ambivalence vers qui le balancier va aller. Et ce nouveau groupe s'appelle les Popeyes. Et quand on parle de Johnny Hallyday, je suis amusant parce que les Français les appellent les Popeyes. Les Popeyes. Bon, mais les Popeyes, c'est un... les Popeyes.
Wow.
Donc là, on se retrouve, on est à la fin des années 60, 67, 68 à peu près. On a ces deux groupes de motards criminalisés à Montréal, les Popeyes et bien sûr les Devil's Disciples, qui sont les deux entités. Et ces deux entités, bien sûr, vont se faire la guerre. L'importation des narcotiques eux-mêmes, comme je l'ai mentionné, s'est laissée d'abord et avant tout au crime organisé. Et là, donc, entre 1968 et 1970, il y a plusieurs affrontements qui vont se produire entre ces groupements-là. Puis là, on parle d'affrontements violents. J'ai vu des photographies qui avaient été prises à l'époque. Ces gens-là s'affrontaient à coups de bâton de baseball en plein milieu de la rue. Hein. Il y avait des affrontements. Là. Les groupes arrivaient. Là, on pouvait arriver une dizaine, une quinzaine de motos. Les gens débarquaient de leur moto. On avait des couteaux, des bâtons de baseball. Et ça se terminait par des groupes, des membres au sol, les bras cassés, les poignets foulés. Écoute, c'était assez, assez violent. Et à l'époque, la police, qui n'avait pas entièrement le contrôle là-dessus, puis il faut dire aussi que la police a bien changé aujourd'hui en 2004 et la police des années 60, là, c'était pas tout à fait la même chose. On le sait, le red light, il y avait beaucoup de corruption au sein des forces de police. Et les forces de police essayaient un peu de ménager la chèvre et le chou entre ces deux groupes de motards. Et c'est à ce moment-là que va arriver ce fameux épisode de Johnny Hallyday. Hein. On est en 1969. Cette guerre a lieu. Hein. On est en plein milieu de cette première guerre des motards entre les Popeyes et les Devil's Disciples. Johnny Hallyday arrive au Québec. Il est une étoile extraordinaire en France. Il a fait des succès qui, même ici, là, pour utiliser l'expression française, qui cartonnent. Hein. Quand on pense aux portes du pénitencier, que je t'aime, bon, c'est des gros, gros succès. Et c'est l'idole des jeunes. Hein? Et à ce moment-là, il faut se rappeler qu'à la fin des années 60, plusieurs groupes de musique, parce que bon, il représente une forme d'anarchie. Johnny Hallyday, c'est une forme d'anarchie en France. Hein? Il est souvent critiqué par la presse bien-pensante française, parisienne, qui voit en Johnny Hallyday une espèce de pouilleux, on ne sait pas d'où il sort. Exactement la même réaction que la presse américaine avait eu lieu avec Elvis Presley 10 ans plus tôt.
Ouais.
Hein? C'est une espèce de malade mental. On ne sait pas d'où il vient. Il chante n'importe quoi, il se déhanche, il se jette sur scène. On était loin de Frank Sinatra, là. On est bien d'accord avec ça. Et beaucoup de groupes, à la fin des années 60, c'est devenu un peu une mode de faire appel pour la sécurité des concerts. On faisait appel à des groupes de motards, oui. Et principalement lorsque c'était des concerts à l'extérieur. Et bon, il y en avait un de ces concerts en décembre 69 à Tracy, en Californie, qui avait mal tourné. C'était les Rolling Stones qui avaient demandé aux Hells Angels d'assurer la sécurité au concert. Et ça s'était terminé avec une bagarre. Un individu avait été tué à coups de couteau. Donc, ça s'était mal tourné. C'était assez répandu, cette idée de faire appel à des motards pour assurer la sécurité des spectateurs.
Comme effet dissuasif ou vraiment à coup de poing?
Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu n'essaies pas de sauter sur l'idole sur la scène quand il y a 8 motards en avant. Okay. Là, tu sais. Et dans le cas de John Hallyday, c'est un peu étrange ce qui va se produire. Il arrive donc au Québec. Et il va rencontrer les gens, il va demander au groupe des Popeyes d'assurer, il doit donner des concerts au Centre Paul Sauvé à Montréal, qui n'existe plus maintenant. Et il décide donc de faire appel aux Popeyes pour assurer la sécurité. Le problème ici, c'est que, bon, lui, évidemment, il arrive de France, il est un peu à côté de tout ce qui se passe en termes de trafic souterrain. Et qui plus est, le représentant, le chef du groupe des Devil's Disciples, lui, un certain Claude Elsen, c'est un maniaque de Johnny Hallyday. En même, il est tellement obsédé par Johnny Hallyday que même dans le groupe, les gens, son surnom, c'est Johnny. On l'appelle Johnny justement parce que son idole, c'est Johnny Hallyday. Imagine-toi l'affront. Johnny Hallyday arrive au Québec pour donner une série de concerts et fait appel pour sa sécurité au groupe rival.
Ouais. Non.
Donc, là, tu comprends que ça va pas bien. Alors, à un moment donné, alors qu'il est établi juste avant, 2 jours avant les concerts, alors que Johnny Hallyday est établi dans un restaurant de Montréal, il y a une fusillade qui éclate. Des coups de feu sont tirés à travers la vitrine. Visiblement, Hallyday, selon le rapport de police, Hallyday était pas... On le visait, mais on visait pas... On cherchait pas à le blesser, mais on voulait lui envoyer un signal clair. Donc, les balles ont été tirées au-dessus de sa tête. On a fracassé la vitrine, mais le message était clair. Et 2 jours plus tard, lorsqu'il y a eu ce fameux concert au Centre Paul Sauvé, il y a peut-être des gens qui habitent la région de Québec qui nous entendent ce soir, qui étaient là, mais ça s'est mal passé. Il y a eu des coups de feu, ça a déclenché des bagarres, des gens ont été blessés. Vraiment, ça a été tout à fait chaotique. Et éventuellement, quand John Hallyday est retourné en France, bien évidemment, il s'est juré de ne plus revenir au Québec et de donner la sécurité à des groupes de motards au Québec, comme il l'avait fait. Ça a été pour lui une grave erreur. Et il faut dire qu'il ne reviendra au Québec qu'en 1975. Et là, son concert va être donné au Jardin des Étoiles, le bâtiment existe encore aujourd'hui. C'est à Terre des Hommes, là, sur le site de La Ronde. Là. Une époque, c'était une salle de concert très populaire. Mais Johnny Hallyday va prendre quand même un petit break de quelques années après cet incident-là. Donc, après l'incident, dans l'idée, on se retrouve, on est au début des années 70, la guerre entre les Devils de Saipul et Popeye a atteint un point de non-retour, des dizaines de membres d'un côté comme de l'autre commencent à tomber sous les balles, et à ce conflit, c'est un conflit d'ailleurs que la presse elle-même qualifie de la guerre des amphétamines, on ne parle pas de la guerre des motards, mais c'est la guerre des amphétamines.
Du territoire de drogue.
Et éventuellement, les Popeyes vont sortir les vainqueurs de cette guerre de motards au Québec. Et à ce moment-là, certains des membres particulièrement influents du groupe, des gens, puis c'est peut-être des noms qui vont résonner dans l'imaginaire des gens comme Yves Apache-Trudeau, hein, qui était le chef du chapitre de Montréal.
On m'en a parlé. On me dit que c'était peut-être un des plus prolifiques et des plus grands criminels de l'histoire.
Oui, c'est
ça. Donc, plus impressionnant aussi.
Oui, il va devenir un tueur à gages pour la mafia. Et on ne sait pas exactement, on a même fait un film récemment qui raconte un peu son histoire romancée, mais on le suspecte d'avoir commis une quarantaine d'assassinats au nom du monde interlope. Et puis en 1977, les Popeyes, qui existent encore, vont s'associer aux Hells Angels, qui est le célèbre groupe de motards qu'on connaît, et cette fusion va entraîner la première création d'un chapitre des Hells Angels au Québec qui va s'appeler le North Chapter, chapitre du Nord. Et à ce moment-là, il y a une centaine de membres actifs du groupe des Popeyes, mais en raison d'une charte interne au sein des Hells Angels, seulement 35 d'entre eux vont faire la transition des Popeye vers les Hells Angels, et éventuellement ceux qui ne rejoindront pas les Hells Angels vont peu à peu disparaître ou former des groupes satellites, mais n'auront plus cette présence-là qu'ils ont eue avant cette fusion. Et là, avec l'implantation des Hells Angels au Québec, ça entraîne une stabilité dans le milieu des motards criminalisés. Là. Le principe est simple, c'est tu es avec moi ou tu es contre moi.
Tu marches avec moi ou tu marches derrière moi.
Il n'y a pas personne qui a envie de se mêler de ça. Et c'est là que va arriver, en fait, là, on voit apparaître là, en 1985 l'amorce de ce que va devenir cette fameuse guerre des motards que l'on connaît aujourd'hui. Là, quand les gens parlent de la guerre des motards, c'est là que ça, elle commence, en fait, elle débute en 1985. À ce moment-là, il y a le groupe des Hells Angels qui ont développé différents chapitres. Et il y a un de ces chapitres, hein, qui est le chapitre de Laval, où les membres sont un peu plus flamboyants, hein, puis on veut pas ça. T'sais, quand tu es dans ce milieu-là, on veut pas que tu attires trop l'attention. Okay. Or, ces gens-là attirent beaucoup l'attention. On consomme de la cocaïne, on organise des soirées qui sont très flamboyantes. Ça attire l'attention des services de police. On se met à surveiller ces gens-là. Et là, à un moment donné, ça fait beaucoup, beaucoup trop parler d'eux. Et des gens décident finalement, le fameux chapitre du Nord des Hells Angels décide que ce petit groupe de Laval doit répondre un peu de ses actions, et on va les inviter à ce moment-là dans un bunker qui se trouve à Lennoxville. Et c'est ce qu'on va appeler, hein, c'est passé à l'histoire du crime au Québec comme étant la purge de Lennoxville. Donc, on va inviter 7 membres du groupe de Laval à se rendre à Lennoxville pour répondre un peu de leurs activités olé-olé, si je puis dire. De ces 7 membres, seulement 5 vont se rendre sur place. Et là, ils vont se retrouver devant non seulement le groupe, le chapitre du Nord des Hells Angels, mais également des Hells Angels qui sont venus d'aussi loin que l'Ontario, la Nouvelle-Écosse. Là, c'est vraiment une réunion de haut bonnet des Hells Angels. Mmh. Il y a une espèce de parodie de procès. Et à l'issue de cette parodie de procès, bon, on décide d'éliminer ces membres-là. Des noms qui, à l'époque, avaient fait la une de plusieurs journaux au Québec, là, Guy-Louis Chop Adam, Jean-Guy Guy Brutus Geoffrion, Jean-Pierre Matt le crosseur, Mathieu, Michel Willy Méran et Laurent Langlais Viau. Ces 5 membres-là sont abattus.
Puis Christian, en fait, oui, c'est le massacre de Lennoxville, puis c'est à partir de là où les Hells, tu sais, souvent les gens dans l'imagination populaire, ils vont penser aux motards, puis tu sais, t'es jeté dans le fleuve avec
un bloc de béton.
Dans le ciment. Mm. Ben, c'est à partir de là, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, ça a fait aussi les manchettes, il y a eu des images de ça. On avait retrouvé un corps dans un sac de couchage avec les pieds dans le ciment.
Plus qu'un, on les a retrouvés, les 5 hein, qui avaient été abattus dans des sacs de couchage, lestés avec des blocs de béton et jetés dans le fleuve Saint-Laurent, à peu près à la hauteur de Sorel.
Oui, c'est ça, exact. Oui, c'était chic.
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, justement, que dans notre imaginaire, dans notre vision, c'est comme 100 fois ni loi, puis on décide d'éliminer les gens de toutes sortes de façons? Est-ce que c'est là que ça a comme ouvert les valves, si on veut, à la torture?
Absolument. Écoute, moi, je me rappelle, à cette époque, en 85, il y avait une blague entre nous, là, on était des jeunes étudiants, puis il y avait une blague, puis on se disait... Tu sais, si j'étais un motard, je dirais que le fleuve Saint-Laurent, c'est un peu comme la soupe Campbell. Il y a un petit peu de nous là-dedans.
Ah, c'est beau. Ah, j'aime ça. Ça, c'est beau. Ça. Hey, pour vrai, ça me touche.
Tu sais, fait que... Il y a donc ces gens-là. Et bon, ben, oui.
Non, vas-y, Christian.
La découverte des corps, comme tu l'as mentionné, va entraîner des rafles policières dans les milieux des motards. Puis là, on sent la soupe chaude. Plusieurs vont retourner leur veste, dont le fameux Yves Apache Trudeau, qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui était l'un des tueurs prolifiques. Il va se tourner sa veste et il va dénoncer au moins 35 meurtres qu'il aurait commis là, au nom des Hells Angels. Tout ça. Et là, on se retrouve en 1986, on est un peu affaibli par cette fameuse purge de Lennoxville. Et là, les Hells Angels vont se faire doubler par un autre groupe de trafiquants. Et là, on les voit arriver, hein, ces autres trafiquants avec le grand soulier. C'est les fameux Rock Machine. Donc, ouais. ils vont se mettre en place. Et derrière cette formation des Rock Machine, et ça, c'est un aspect que les gens ignorent, au sein de cette formation des Rock Machine, c'est un groupe, hein, eux ne se cachent pas, c'est un groupe qui sont des suprémacistes blancs. Ce sont des gens qui supportent l'idéologie SS, l'idéologie nazie, et c'est formé par les frères Cazzetta, Salvatore et Giovanni Cazzetta, et il y a un certain membre dans ce groupe-là des Rock Machine, il y a un certain Maurice Mom Boucher.
Oui.
Hein? À ce moment-là, les gens ne le savent pas, mais Mom Boucher n'est pas membre des Hells Angels, hein? Il est membre des Rock Machine. Et à ce moment-là, il va annoncer, comme le groupe des Hells Angels est un peu affaibli au Québec après la rafle de Lennoxville, Mom Boucher va annoncer qu'il décide, lui, d'abandonner les Rock Machine et de rejoindre les Hells Angels, parce qu'il sent évidemment une opportunité de pouvoir prendre le contrôle. Évidemment, au sein des Rock Machine, on voit ça comme une véritable trahison. Parce que pour les Rock Machine, les Hells Angels ont finalement assassiné, éliminé des membres, ont fait une purge au sein de leur propre organisation, et ça, c'est inacceptable. Ils voient ça, eux aussi, comme un geste tout à fait écœurant. Et de voir que Mom Boucher va quitter les Rock Machine pour se lancer, pour essayer de conquérir quelque part un chapitre des Hells Angels, c'est très mal vu. Et ça va entraîner cette fameuse guerre. Éventuellement, Mom fait la transition. Il se retrouve, il va former le groupe de Montréal, le secteur de Montréal des Hells Angels. Et à ce moment-là, c'est une guerre ouverte entre lui et les Rock Machine qui, il ne faut pas se le cacher, les Rock Machine, après la purge de Lennoxville, pensaient bien pouvoir prendre le contrôle du trafic des narcotiques dans la Grande au Québec. En se disant, ben, les Hells Angels vont disparaître avec la purge de Lennoxville, ils sont affaiblis. Et là, voilà que Mom Boucher va leur... C'est littéralement aller prêter main forte à l'ennemi. Et soudainement, Mom Boucher se retrouve à la tête de ce fameux chapitre de Montréal. Et là, c'est la guerre ouverte entre les Rock Machine et les Hells Angels. Donc, Mom Boucher va rapidement se prendre le contrôle qu'on lui connaît, va vite monter dans la hiérarchie. À ce moment-là, les Rock Machine vont s'associer avec d'autres groupes de motards de l'Ontario. C'est d'ailleurs de l'Ontario que viennent les Rock Machine. Ils vont s'associer avec d'autres groupes. Et là, bien évidemment, on vise le contrôle du trafic des narcotiques à Montréal. Ça va entraîner cette fameuse guerre qui va durer pendant 10 ans. Guerre que tout le monde a entendu parler. On dénombre à peu près, le grosso modo, je t'ai sorti des chiffres, 150 morts, 84 incendies criminels, 9 disparus, 181 tentatives de meurtre.
C'est l'enfer.
Et bien, ouais, évidemment, dans ces exactions, l'événement qui va marquer l'imaginaire, et tu l'as mentionné, Camille, en début d'émission, le 9 août 1995, le jeune Daniel Desrochers est soufflé par une bombe qui avait été placée sous une camionnette Jeep là, sur le boulevard P9 à Montréal. Et là, pour la première fois, je dirais, les médias et le public réalisent soudainement que ce n'est pas que des exactions au sein de groupes criminalisés. Hein. Malheureusement, il y a des victimes collatérales ouais. finalement à ces actions. Et là, ben, la mort du jeune Daniel Desrochers, ben, évidemment, ça va choquer le public. Et là, on demande des actions, on veut que les autorités réagissent. Mom Boucher, ben, est littéralement considéré comme, à ce moment-là, Mom Boucher, c'est le dieu de l'organisation. Lui aussi a un style qui est excessivement flamboyant. Hein? Il aime qu'on parle de lui, il est un peu narcissique. Il a un style, certains journalistes judiciaires vont le décrier un peu ou le décrire comme John Gotti. Je ne sais pas si ce nom-là te dit quelque chose. John Gotti était un chef mafieux de la région de New York.
Okay.
Et il était, on l'appelait de Teflon John, hein? tout semblait glisser sur lui. C'est un homme qui aimait déambuler dans les rues, bien costumé, il attirait l'attention, participait à toutes sortes d'activités qualitatives. Il était presque, même dans son quartier, il donnait des sommes d'argent pour des œuvres de charité, tout ça. Il était particulièrement bien vu. Et même si les autorités savaient que c'était un mafieux,
John populiste.
Gotti, il était, ouais. Et les gens, ses supérieurs, les autres membres des familles du crime organisé, n'aimaient pas trop de voir John Gotti comme ça, éventuellement, attirer toute l'attention vers lui. Mom Boucher avait un peu cette... Oui?
Christelle, tu te rappelles-tu, les plus vieux vont se rappeler de ça, des images de Mom Boucher qui sort triomphant du Palais de justice de Montréal et qui, le soir même, assistait au Café Campus à un enregistrement de Piment Fort. Ça avait fait le tour du Québec parce qu'à ce moment-là, tu sais, tu parlais de la personnalité un peu narcissique. Moi, je te le dirais plus comme la semaine dernière, on s'en parlait un peu histrionique sur les bords. Mais tu sais, c'était un. En fait, on a nourri aussi ce personnage-là parce qu'il avait gagné un procès. Il avait été acquitté. Et là, c'était le triomphe.
Ouais, tout à fait raison. Hein. Mom Boucher là, devient une vedette. Mm. C'est la figure du anti-héros. Hein. Puis cette fausse assurance, malheureusement, va l'amener à commettre une erreur qui va le conduire à sa perte. Hein. Il se pense tellement omnipuissant qu'en 1997, il souhaite intimider l'administration judiciaire. Il va commander les meurtres des gardiens de prison Diane Lavigne et Pierre Rondeau. La police va arrêter bientôt l'un de ces fameux tueurs, un type qui s'appelle Stéphane Godasse-Gagné, qui, en échange d'une peine réduite, va finalement va expliquer les tenants et aboutissants de cette tentative. Mm. Et comme Daniel l'a mentionné, donc à l'automne, le boss est arrêté. Il est formellement accusé des meurtres. Et un an plus tard, à l'issue d'un procès qui est très médiatisé, il est libéré parce que le jury considère que le délateur n'était pas crédible. Et pour la petite histoire, hein, tu as mentionné le truc à Pimentfort, il y en a un autre également, mais là, il faut quand même... Tu vois, entre l'imaginaire et la réalité, il y a un concours de circonstances. Quelques jours après avoir été libéré, on est le 27 novembre 88, Mom Boucher assiste à un match de boxe qui oppose Stéphane Ouellet et Dave Hilton au Centre Molson. Oui. Et quand Mom Boucher entre dans l'aréna, au même moment, on présente Dave Hilton sur un écran géant. C'est au même moment, une coïncidence. Mais quand on voit Dave Hilton apparaître sur la scène, sur l'écran, les gens se lèvent et applaudissent. Et beaucoup de journalistes dans la salle vont confondre ça en disant « Les gens ont applaudi à l'arrivée de Mom Boucher. »
Ah, le timing!
Oui, c'est ça, mais c'est le timing. Hein. Fait qu'en réalité, ne soyez pas étonnés si vous entendez cette histoire-là, mais c'était une question de timing. Les gens ne s'étaient pas levés pour souligner l'arrivée de Mom Boucher, mais bien pour souligner l'apparition de Dave Hilton sur les écrans géants. Mais néanmoins, c'est passé un peu à l'histoire, cet accueil triomphal de Mom Boucher au Centre Molson. Mais bon, cette liberté retrouvée va être de courte durée. À l'automne 2000, il y a un nouveau procès qui est engagé contre Mom Boucher. Cette fois-là, il est accusé de 13 meurtres, incluant, on ramène à nouveau les assassinats des agents Lavigne et Rondeau. Les preuves ont été colligées par l'escouade Carcajou. Et à ce moment-là, pour les gens qui l'ignorent, l'escouade Carcajou était une unité spéciale composée par des agents de la Sûreté du Québec et des agents de la GRC et de la police de Montréal pour mener une guerre, littéralement, ce crime organisé qui était contrôlé par les motards.
En réponse et à l'événement de Daniel Desrochers aussi. Hein.
Oui, absolument.
Oui, puis non.
Ah ouais.
En fait, cet événement-là, l'événement Daniel Desrochers, c'est l'événement qui a placé les autorités dans le collimateur du public.
OK. Ouais.
La police travaillait sur ces crimes-là, mais elle travaillait un peu en sourdine, puis ayons pas peur des mots, elle se laissait un peu traîner de la patte. L'affaire du jeune, Daniel Desrochers, ça a été épouvantable. Les gens ont dit, là, il faut que ça cesse. Et là, cette fois-là, même les autorités politiques s'en sont mêlées. Et bon, bien sûr, il y a eu cette arrestation. Mom Boucher, il va être condamné à une réclusion à perpétuité, une peine de prison à vie avec une possibilité de libération après 25 ans. Et puis, bon, Mom Boucher va décéder le 10 juillet 2022 d'un cancer de la gorge.
Oui, donc, et je peux vous dire que jusqu'à la toute fin, il y a eu un mépris total des autorités.
Ah, ouais.
Absolument.
Jusqu'à la toute fin. Oui. Oui.
Et aujourd'hui, et avant que je cède la parole à Daniel, parce qu'il y a tellement à dire sur cette histoire-là, comment ça s'est déroulé, puis la position des autorités, puis du public, mais il faut savoir qu'avec les déboires judiciaires de Mom Boucher, ça a entraîné une restructuration des Hells Angels. Le groupe des Nomades qui avait été créé par Mom Boucher a disparu, et l'organisation demeure quand même présente au Québec. Les Hells Angels sont toujours présents au Québec, mais ils doivent faire face à un nouveau type de criminalité qui n'existait pas. voilà, qui n'existait pas dans les années 70 ou même dans les années 80. C'est nouveau, c'est vraiment l'anarchie du crime. Ce sont les gangs de rue. Donc, au moment où on se parle, les Hells Angels, le monde mafieux de Montréal, sont aux prises avec un troisième fléau criminel avec lequel ils doivent composer et combattre d'une certaine façon. Ce sont les gangs de rue. Donc, maintenant, ne plus une guerre à deux, mais une guerre à trois. Donc, c'est à peu près le tableau de ce fameux, cette guerre de, ces guerres, ces deux guerres de motards qui ont secoué le Québec.
Oui, absolument. Puis, tu sais, en fait, bon, c'est sûr, comme tu dis, Christian, il y a tellement de choses à dire sur ce conflit-là parce que ça a duré longtemps, ça a marqué l'imaginaire. Effectivement, les deux événements que tu as décrits, soit la bombe qui a tué, malheureusement, le petit Daniel Desrochers, mais surtout l'assassinat des deux gardiens de prison, c'est vraiment les deux événements, je vais dire, charnières, qui ont fait basculer le conflit. Et pourquoi tantôt je disais oui puis non au niveau de Daniel Desrochers, c'est qu'en fait, les Hells comme tels, tu sais, si je peux me permettre des petites anecdotes, là, ma belle-mère, bon, à l'époque, restait à Boucherville. Puis mon boucher aussi restait à Boucherville. Et elle m'a toujours dit, c'était
pas... Ah, c'est pas plein parce qu'il mettait sa musique trop fort. Non! Mon père te les cognait à sa porte. Non, hey, ta musique est trop fort.
Oh non, non, elle m'a dit, on endurait. C'était agréable, des beaux moments. Mais tu sais, mais en fait, elle m'a dit, quand je le croisais sur la rue, c'était quelqu'un de super sympathique. Puis, comme tu le disais tantôt, Christian, l'opinion du public est très, très importante, entre autres pour les mentors, en tout cas les mentors de l'époque. Mais quand il y a eu ce dommage collatéral-là, ça en demeure pas moins un petit garçon qui a perdu la vie. Et à partir de ce moment-là, l'opinion du public a basculé. C'était la même affaire au niveau de la mafia. Quand la mafia en Italie a eu les mains un petit peu trop longues et ont fait assassiner le juge Salvatore, à partir de là, l'opinion du public a basculé et la mafia n'avait plus le soutien et ça a été la même affaire au niveau des Hells. L'autre chose,
comme
c'est
à Montréal, par exemple, l'affaire de Richard Blass, quand il a mis le feu au Gargantua, ça a été le point de bascule.
Okay.
Absolument, absolument. C'est exactement. Il y a toujours dans ces grosses histoires-là un point de bascule. Ce qui est particulier avec les Hells, c'est justement l'assassinat des deux gardiens de prison. Parce que Mom Boucher l'avait clairement dit à l'intérieur, il avait dit « on va s'en prendre ». À l'appareil judiciaire. Donc, il avait entre autres dit à Godasse, il avait dit la prochaine fois, ça va être des procureurs, ça va être des juges. Lui, là, dans son omnipotence, on va dire, lui, il se pensait vraiment intouchable et il s'est dit, on va faire trembler le système. Et c'est à partir de là que les autorités ont dit, ça va faire. Oui, la bombe qui a tué le petit Desrochers, ça avait fait basculer l'opinion publique. Mais à partir du moment où il y a eu deux gardiens de prison assassinés, puis Christelle, tu t'en souviens probablement, c'était sur l'autoroute en plein jour. Les gens sont mis, il y avait peur dans les rues, il y avait peur sur la route, ils ne savaient jamais. Et là, les autorités ont dit, c'est assez.
Oui, non, même, Daniel, moi, j'ai entendu des histoires. On ramène ça au local à Québec, là, dans la base ville, le Québec. Quand j'ai dit que je me suis amusée à poser des questions autour de moi, là, Saint-Roch, là, tout le secteur, là, Saint-Vallier, Saint-Sauveur, les gens craignaient là, de se retrouver dans des bars. Là, c'était à coups de batte de baseball, à tout piller puis à sacrer le feu. Là.
Absolument, absolument. Puis c'est ça, c'est que les gens, il y avait vraiment une peur collective. Et là, on ne peut pas parler d'une hystérie collective. Là. C'était vraiment une peur qui était justifiée parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur la personne aussi. Je te le disais hors d'onde, mais à l'époque, tu sais, parce que je ne veux pas dévoiler mon âge, mais mettons que j'avais 13 ans à l'époque, tu sais, au moment du conflit. Mettons que j'avais à peu près cet âge-là. Je restais évidemment chez mes parents, puis on allait à un club vidéo qui n'était pas loin. Et dans le stationnement du club vidéo, il y a eu un meurtre qui était une erreur sur la personne. Et je me souviens, ça a pris longtemps avant qu'on retourne à ce club vidéo-là parce que mes parents avaient peur.
Avec raison. T'sais.
Avec raison. Mais il faut comprendre aussi, Christophe a parlé avec l'escouade Carcajou, il y a eu l'opération Printemps 2001. En fait, ce type d'opération-là, ce que ça a amené, je n'ai jamais vu dans l'histoire des législatives au Canada des lois passer aussi rapidement. C'est à partir de là, entre autres, qu'il y a eu la loi sur le gangstérisme. À l'époque, tu sais, avant l'adoption de cette loi-là, tu pouvais être accusé d'activité criminelle, mais on ne pouvait pas t'accuser en étant associé simplement à un groupe criminel. Ce qui a été, en fait, un point de bascule avec l'assassinat des gardiens de prison, ça a été ça. Ça a été l'adoption d'une loi qui faisait en sorte que tu pouvais être accusé au criminel simplement parce que tu étais association,
oui. Okay. Les gens ont vu aussi qu'on a construit littéralement un palais de justice spécifique, là, une salle d'audition spécifique pour le procès de Mme Boucher.
Oui,
là.
Oui, absolument. C'est au niveau du boulevard Gouin, là, pour ceux qui connaissent ça.
On avait
ça,
construit un bâtiment pour accueillir ce procès-là. Spécifiquement, on l'avait aménagé pour ce procès-là.
Oui, absolument.
Avec des fenêtres anti-balles et tout le reste, là.
Ah oui, pour y être allé, c'est impressionnant. Là. Tu sais, il y a encore des procès qui se font là, au centre de détention. Là. Donc, dans le fond, il y a cette espèce de salle-là que tu décris, puis c'est relié par un corridor à la prison, là, ça s'appelle plus de même, mais la prison de Bordeaux, là, tout le monde connaît ça. Donc, c'était vraiment relié par un tunnel. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis, je vous le dis, j'ai jamais vu ça dans l'histoire législative, en tout cas au Canada, des lois passer aussi rapidement parce que les autorités devaient agir. Et je sais que les policiers étaient particulièrement tannés que les gouvernements ne leur donnent pas les moyens qu'il fallait pour justement arrêter cette guerre-là. Mais j'ai envie de vous poser une question parce que je me suis intéressé aux Hells. Dans mes cours de criminaux. Et je vous dirais, pour déstabiliser une organisation comme ça, qui qu'il faut arrêter? Qui qu'il faut éliminer? Je vous lance la question.
Moi, je dirais qu'il faut éliminer.
Moi, je dirais qu'il faudrait... Il y a toujours une femme quelque part. Non, mais je dirais il faut éliminer les exécutants. Parce que les exécutants sont ceux qui ont plus de chances de changer de leur veste de bord.
Je vous dirais, probablement, tu sais, que les auditeurs nous disent, il faudrait arrêter les chefs. Il faudrait arrêter, tu sais, comme Mme Boucher.
Il y a toujours un remplaçant, fait que c'est pas le bon réflexe, ça.
Exact. C'est qu'en fait, j'avais eu un cours qui s'appelait sociabilité criminelle, puis j'avais développé une théorie que mon prof n'avait jamais vue, fait que j'étais bien fier, tu comprends? surtout qu'il était un chercheur connu, fait que j'étais comme hey, I'm a big shot maintenant. Mais tout ça pour dire que j'avais développé une théorie sur le fait que, entre autres, Mme Boucher, en créant les nomades, les rockers, puis après ça, t'avais une sphère qui s'appelait les hangarounds, avait créé un phénomène de clique. Et quand tu crées un phénomène de clique dans un groupe du crime organisé, ce qui se passe, c'est que tu deviens, entre guillemets, redondant. Dans le groupe. Ce qui fait en sorte que si toi, on te retire du groupe, ça n'a pas d'impact sur les activités criminelles qui se déroulent parce que les contacts sont partagés avec d'autres. Donc, ce que j'avais fait, puis là, on avait des matrices puis tout, puis on s'amusait là, à éliminer des gens, puis on ne les tuait pas, là, on les faisait arrêter. Là. Mais tout ça pour dire qu'on est allé éliminer, entre autres, des trafiquants de drogue. Qui, eux, avaient des contacts beaucoup plus diversifiés, puis à l'extérieur des Hells. Et ça venait beaucoup plus déstabiliser le groupe, parce que pour refaire le réseau de contacts, puis pour s'assurer que finalement, il y a une poursuite des activités criminelles, c'était beaucoup plus long. Oui, tu coupais des ponts. Fait que, en fait, ce qu'on se rendait compte, parce que j'ai essayé avec les principales figures des Hells, et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il n'y avait à peu près pas d'impact. T'sais, on aura beau avoir arrêté Mme Boucher, c'est pas ça qui a eu de l'impact sur les activités criminelles. Fait que je me suis dit, après avoir développé cette théorie-là, mais mon Dieu, pourquoi la police ne m'a-t-elle jamais engagé? Ça, c'est un mystère qui perdure à ce jour. Mais j'avais développé cette théorie-là au niveau des clics qui se créaient dans le crime organisé, puis les Hells, c'est un bon exemple parce que ça s'appliquait vraiment bien. Puis, si je peux terminer avec des petites anecdotes rapidement, j'ai parlé avec, à l'époque où je travaillais au Palais de justice de Montréal, j'ai parlé, entre autres, avec le procureur qui était au procès de Mme Boucher. Puis, il m'avait dit « Je n'ai jamais eu peur dans le cadre d'un procès. Il en a fait, là, c'est un procureur aux assises, sauf celui-là. » Il dit « Celui-là, les Hells étaient dans la salle, ils nous intimidaient, c'était vraiment, vraiment désagréable. » Et il avait fait appel à une autre procureure à ce moment-là qui, elle, n'avait pas la langue dans sa poche, puis était une fonceuse. Et cette procureure-là, c'est Franche Charbonneau, qu'on connaît entre autres avec la commission Charbonneau. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore sur ce conflit-là. Le temps nous manque. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai peut-être deux ouvrages à vous recommander si jamais vous voulez en apprendre plus. Le premier, c'est le livre noir des Hells Angels. Puis, tu sais, Camille, tu me disais, Ben là, c'est-tu un livre sensationnaliste?
Oui, c'est ça. À quel point on peut s'y fier?
Ben, je vous dirais, moi, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai, d'ailleurs, je vous parle, puis je le ziote, là. Donc, en fait, non seulement t'en apprends plus, t'en apprends au niveau du code. Tu sais, Christian, tu disais, c'est des suprémacistes blancs. Ben, en fait, il y a toute une charte qui existait, et tu vois les règles. En fait, ça fait que ça vient imager aussi le conflit qu'il y a eu. Et, bon, je vous parlais des pieds dans le ciment et tout. Il y a ce genre de photos-là. Il y a aussi dans le bunker, tu le vois, la drogue qui a été saisie, les liasses d'argent qu'il y avait, c'était écœurant. Donc, je le trouve vraiment intéressant. C'est rempli aussi d'informations super intéressantes. Et sinon, si vous vous intéressez plus, en fait, à la chute des Hells, entre guillemets, puis aussi au procès, il y a Les procès des menteurs de Paul Cherry. C'est un livre qui date quand même des années 2000, début 2010, je ne me trompe pas. Et ça raconte justement bon, ce qui a mené à ces procès-là, ce qui a mené à l'adoption des lois aussi. Fait que plus d'un point de vue, je vous dirais, législatif, là, c'est vraiment intéressant à lire.
Puis moi, je rajoutais une petite anecdote. Quand j'ai fait la recherche pour Ennemi public numéro 1, j'ai rencontré, bon, j'étais TVA, donc on rencontrait les journalistes du Journal de Montréal. Et je nommerai pas de nom, mais plusieurs d'entre eux disaient, on surveillait notre plume quand on écrivait sur les Hells Angels. Et avant qu'ils soient arrêtés, là, on faisait attention parce qu'on voulait pas... Bon, l'un d'entre eux, on le sait, avait copé, s'était fait tirer dessus dans le stationnement du journal.
Ouais.
Donc, on essayait un peu de... On essayait de minimiser nos commentaires sur les Hells. Mais c'est quand même incroyable qu'on ait... que le Québec a été marqué par une guerre aussi violente que ça dans le milieu des motards.
Avec la mention des gangs de rue, on promettait, enfin, on craignait le pire pour cet été. Bonne nouvelle, c'est un petit peu plus tranquille, mais ça fait un an qu'on parle d'une ébullition actuellement, puis on en a discuté, Daniel, dans le cadre du Spacecast, c'est de la montée en tension des phénomènes de scoring aussi à Montréal avec le crime organisé. On a heureusement un lourd passé qui est derrière nous, ça va faire 30 ans l'année prochaine de l'événement du petit Daniel Desrochers. On a encore, malheureusement, un territoire, on va dire un terreau fertile en crime organisé au Québec, mais c'est plus entre eux. On a eu des événements à Saint-Malachie au courant du printemps avec carrément un membre de la gang de Dave Picturmel qui s'est fait couper une oreille dans une grange là, à Saint-Malachie. Ça brasse encore, mais il y a eu une secousse dans les années 90 que je ne souhaite pas revoir là, de sitôt.
Ouais, c'est quand les actions criminelles se tournent vers le public en général.
C'est
un peu la même chose avec le crime organisé, le monde interlope. T'sais, pour les gens, on se dit, ben ouais, mais ils s'entretuent entre eux. Tant aussi longtemps qu'on a cette espèce de vision où ça se passe à l'interne, on ne se sent pas trop interpellé. Mais quand soudainement on voit des gens, et en particulier des enfants, qui tombent victimes de ces conflits-là, ça devient un problème social.
Daniel Carosella, criminologue, Christian Page, journaliste et animateur de Suspect X. Merci. Je suis tellement contente qu'on ait cette aventure-là ensemble. Donc, une semaine par mois, on va revenir sur des événements criminels qui se sont survenus au Québec. La semaine prochaine, lundi prochain, on va déjà être de retour à l'international. Si tu avais à nous teaser la semaine prochaine, Christian, on s'en va où? Quel pays qui va être concerné pour notre Suspect X?
La semaine prochaine, je m'adresse aux amateurs, les cinéphiles, Wolf Creek.
OK, ça promet. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et on se dit à lundi prochain. On est disponible, c'est officiel, la saison est commencée. On est disponible sur le site www.radiox.com en podcast et sur Spotify également. Messieurs, bonne soirée.
Bonne soirée. Merci, bye-bye.
Bye-bye.
Suspect X.
Radio X.